Allez, je vous invite à ouvrir votre Bible. Ce ne sera pas notre première lecture, ça va être notre deuxième lecture, mais en fait ce soir, comme on va, je vais vous donner beaucoup de références, je voudrais juste en lire une avec vous. Depuis quelques semaines, on est en train de voir différents aspects de la parole, de la Bible qui est, et c'était le premier point, la Bible c'est la parole de Dieu. Hein, c'est ce que disait Paul. Je suis heureux que vous ayez entendu cette parole et que vous l'ayez accueillie, non pas comme étant une parole d'homme, mais comme elle est véritablement, comme étant la parole de Dieu. La Bible n'est pas un livre comme un autre, il est la parole de Dieu. Dieu ne peut pas nous parler là audiblement, mais tout ce qu'il a à nous dire est là écrit sur ce livre extraordinaire. Alors, on avait vu également la semaine dernière que cette parole, on doit l'accueillir, on doit la recevoir. Et elle, effectivement, elle mérite notre attention et cette disposition de cœur. On doit avoir un cœur ouvert, disposé à la recevoir. On avait comparé, appuyé sur Matthieu 13, à l'état du cœur comme celui d'une terre. Comme une terre doit être préparée pour recevoir une semence, de la même manière, notre cœur doit être préparé, ouvert, aéré, pour que la parole de Dieu puisse rentrer, s'enraciner, pour qu'elle puisse donner du fruit. Et ce soir, on va voir, je crois que ma liste n'est pas exhaustive, elle n'est pas complète, mais on va voir au travers de plusieurs références bibliques, notamment, vous allez voir dans le psaume 119 et le proverbe chapitre 3, j'aurais pu trouver beaucoup plus de références, mais je vous donne le psaume 119 et le proverbe 3, comme ça vous pourrez lire à la maison et retrouver plusieurs de ces références sans que je sois obligé de les citer parce que les références sont nombreuses. Mais les bénéfices que l'homme a à l'écoute de la parole, à l'écoute de la parole, à la méditation, à la lecture, il y a au travers de la parole de Dieu une action qui est complètement différente d'avec tous les autres livres de la Bible. En Hébreu chapitre 4 verset 12, et il nous dit que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. La parole de Dieu n'est pas une parole morte. Vous lisez le journal, on vous instruit sur des choses, vous achetez des magazines, vous pouvez acheter des romans, mais jamais vous ne vivrez les romans, jamais vous ne vivrez l'actualité. Mais la parole de Dieu, elle est vivante, c'est-à-dire qu'elle est capable de prendre vie en nous. Et elle est efficace. C'est-à-dire que ce qui est écrit n'est pas seulement en lettres là d'intellectualisme, mais elle est vivante, elle peut prendre vie en nous. Elle est active, c'est le sens de cette phrase. Elle est active, elle est agissante. Elle communique quelque chose, elle opère quelque chose dans notre vie. Et quand on lit la parole, et c'est pour ça que c'est super important de lire la Bible en disant, mais cette parole-là, c'est pas une parole comme une autre. Elle agit, elle est capable d'influencer. Parce que c'est véritablement ça qui se passe. C'est que quand on est à l'écoute de la parole de Dieu, il y a une influence spirituelle qui se fait sur nos âmes. Et plus on est conscient de la chose, et plus cette influence nous influence. Plus nous sommes conscients de cette influence, et plus cette influence nous transforme et dépose dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit, un certain nombre de choses que l'on va voir ce soir. Vous êtes à Romains, chapitre 1er, verset 16. Ce verset-là pourrait résumer tout ce que l'on va voir ce soir. C'est Paul qui dit, « Je n'ai point honte. » Non, je ne crois pas que ça commence comme ça, pardonnez-moi. Oui, voilà. « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Tout est dit de ce que l'on va voir ce soir dans cette parole-là. Paul allait de lieu en lieu et il prêchait l'Évangile. Lui qui pendant un temps l'a combattu. Avant d'être un apôtre, il était un terroriste. Avant d'être un chrétien, et pas des moindres, un défenseur de la foi, il persécutait et il croyait juste de détruire, de tuer ceux qui professaient le nom de Jésus. Mais cette parole a touché son cœur. Et il dit maintenant, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de l'évangile car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. C'est la puissance. Le mot, alors je vous le dis, c'est de manière anecdotique pour que vous, vous puissiez garder l'image. Mais quand il est là, en grec, le mot la puissance, il est bien traduit, c'est pas un problème, mais c'est pour que vous donniez, pour vous ayez une petite anecdote à retenir ce mot-là. C'est le mot qui a donné dynamique, dynamisme, dynamite. C'est ce sens-là. La parole de Dieu, c'est cette dynamite, c'est cette puissance, c'est cette action. Et tout ce que l'on va voir ce soir est dans cette logique-là. La parole n'est pas morte, elle est vivante. Elle n'est pas vivante pour nous laisser là endormis, mais pour nous apporter une dynamique, une puissance, une autorité. Vous avez déjà mis de la dynamite chez vous? J'espère que non, sinon vous n'auriez plus de chez vous. Mais c'est presque ça. Puissions-nous saisir la parole avec la dynamite qu'elle est, pour que tout ce qui a besoin d'être dynamité dans nos vies puisse être dynamité. Pour le salut. C'est une puissance pour le salut. Ce n'est pas une dynamite, ce n'est pas une puissance qui détruit, ce n'est pas une puissance qui nous étouffe, ce n'est pas une puissance qui veut nous rendre malheureux. Au contraire, c'est une puissance, un dynamisme pour nous apporter le salut. En fait, quand on lit la Bible et qu'on voit le mot guérison, relèvement, c'est exactement toujours le même mot. Et quand Paul dit que l'évangile est une puissance pour le salut, c'est-à-dire pour le relèvement, que ce soit dans le physique, que ce soit dans le moral, que ce soit dans le spirituel, l'évangile apporte le salut, ça apporte la guérison pour le corps, ça apporte le relèvement pour l'âme et ça apporte la vie éternelle pour l'esprit. Il n'en a pas honte de cette parole, parce qu'elle est capable dans tous les domaines de notre vie d'apporter le salut dont on a. Et on a tous besoin d'être aidé, on a tous besoin d'un sauveur, on a tous besoin d'être là, porté par une puissance qui nous permet de sortir de nos limites. Paul va dire, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est ça la solution. Et on a le petit ingrédient pour tous les hommes. Oui, pour tous les hommes qui croient. Une puissance de salut pour le salut de quiconque croit. Et encore ce soir, notre désir, au travers des différents points que l'on va voir, ce n'est pas de se dire seulement, tiens, la Bible fait ça, mais je veux mettre ma foi dans cette parole qui est capable d'agir comme ça. C'est la foi qui fait toute la différence. Rappelez-vous de cette femme qui, allant dans la foule, a touché Jésus. Et elle a été guérie. Pourquoi elle a été guérie? Alors, on est d'accord pour dire que dans cette foule, il y avait certainement d'autres personnes qui étaient malades. Et d'ailleurs, quand Jésus interroge « Qui m'a touché ?», ben les apôtres vont dire « Mais attends, tu dis qui m'a touché, mais tout le monde te touche, Paul. Il y a une foule qui te presse, tout le monde te touche. Pourquoi tu dis qu'il y a une personne qui t'a touché ?» Il dit « J'ai senti une puissance qui était sortie de moi. » Et cette femme avait une démarche différente de toutes les autres. Elle disait, si seulement je puis toucher le bord de ce revêtement, je serai guéri. Et sa foi l'a guéri. Il y avait plein de gens qui touchaient Jésus. Mais ils touchaient Jésus sans foi. Sans cette projection. Sans cette espérance qu'il puisse y avoir une puissance qui puisse sortir de Jésus. De la parole de Dieu, il y a une puissance qui est capable encore ce soir d'agir. Elle prendra efficacité. Par notre foi. La parole, elle est puissance depuis le commencement. La Bible nous dit en Jean chapitre 1, verset 1er, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses, et rien de ce qui a été n'a été fait sans elle. Dieu a créé tout ce que nous pouvons voir, comprendre, réaliser par sa parole. La parole est créatrice. Ça veut dire que la parole de Dieu est capable d'amener à l'existence les choses qui n'existent pas encore. Ça veut dire, c'est pour ça que la Bible nous dit que Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons même penser ou imaginer, étant donné que Dieu, par sa parole, est capable d'agir, d'amener à l'existence des choses qui n'existent pas. Peut-être même que vous allez faire des expériences et que vous allez vivre des choses que vous n'imaginez même pas encore dans votre vie. Parce que vous dites, oh non, c'est pour moi, c'est pas possible. Si seulement, mais c'est pas pour moi ces choses-là. Mais Dieu est le Dieu de la création. Ça veut dire que si nous, nous mettons des limites, nous mettons des limites à l'œuvre de Dieu. La parole de Dieu est créatrice. Elle amène des choses qui n'existent pas à l'existence. Et c'est pourquoi nous devons réaliser que cette parole, elle est puissance, elle est efficace, elle est vivante, elle est créatrice. Que nos cœurs encore ce soir réalisent que Dieu n'a qu'une seule chose à dire et elle existe. Et que tout ce que Dieu a voulu dire est écrit dans cette parole. Il ordonne et elle existe. Et il y a dans cette parole multiples promesses, toutes associées, en tout cas celles que l'on va voir ce soir, à l'obéissance à sa parole, à la foi en sa parole. Il ne faut jamais limiter. Que Dieu nous fasse grâce. Il ne faut jamais minimiser la puissance de la parole de Dieu. La parole, et je voudrais quand même, même si après il n'y a pas forcément un ordre logique, je voudrais quand même commencer par ce qu'elle fait au commencement. Romains chapitre 10, verset 17, pour ceux qui prennent des notes, il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend, de la parole de Christ. La parole de Dieu réveille, suscite la foi. On a tous la foi, me direz-vous. Oui, on a tous la conscience ou la pensée de l'éternité. On a tous au fond de nous quelque chose qui nous fait dire que, ouais, il y a forcément quelque chose. On ne l'a pas encore rencontré. Beaucoup de gens disent, oh oui, je crois qu'il y a quelque chose. Je ne donne pas forcément de nom, mais il y a certainement quelque chose encore. Il y a quelques jours, j'ai rencontré un homme qui dit, oui, il y a certainement quelque chose. Ce serait trop bête que ça s'arrête comme ça. Donc il y a dans la conscience de l'individu la pensée de Dieu. Mais la foi, c'est plus que ça. La foi, c'est le contact avec Dieu. La foi selon la parole de Dieu, la foi selon Dieu, ce n'est pas une vue d'esprit de Dieu, mais c'est une rencontre avec Dieu. Et comme dans ce monde, les gens parlent beaucoup d'amour, amour, amour. Et pourtant, ils sont toujours en train de changer de conjoint les mois et les années passées. Donc ils n'ont jamais rencontré l'amour. Ils confondent désir et amour. Les gens confondent souvent croyance et foi. Oui, la croyance, c'est savoir qu'il y a peut-être quelque chose quelque part. Mais la foi, c'est ce qui nous met en contact avec le divin, avec Dieu lui-même. Et la parole de Dieu fait grandir cette foi. La parole de Dieu fait croître cette conviction, cette assurance. Si vous manquez de foi, lisez la Bible. Si vous manquez de profondeur, de contact avec Dieu, lisez la Bible avec ce cœur ouvert. En réalisant que ce que vous lisez, ce n'est pas une parole d'homme, ce n'est pas une parole morte, mais c'est une parole vivante du Dieu qui vous aime, du Dieu qui vous a créé. La foi, c'est la base de tout, mes bien-aimés. La foi précède le miracle. La foi précède le miracle. Si vous attendez à quelque chose dans votre vie, recherchez la foi et vous l'obtiendrez. Souvent les gens cherchent la bénédiction, mais ce n'est pas la bénédiction qu'il faut rechercher, c'est le Seigneur. Les gens cherchent des richesses, mais ce n'est pas les richesses qu'il faut chercher, c'est la foi. Et la foi peut vous ouvrir les portes de ce dont vous avez besoin. Dieu nous a fait cette promesse de ne pas nous donner tout ce qu'on voulait, mais il nous a fait la promesse de nous donner tout ce dont on a besoin. Et c'est deux choses différentes. Mais la foi, c'est ça. C'est savoir qu'il prend soin de nous et qu'au temps à propos, au temps favorable, il est celui qui exaucera. La parole de Dieu augmente la paix. Proverbe chapitre 3, versets 2 et 4. La parole de Dieu augmente la paix. Dans le psaume 119, verset 165, il nous est dit que la parole de Dieu communique beaucoup de paix. Mais qui ne veut pas la paix ? Alors il y a la paix, j'ai pas de soucis, mais ça c'est pas sur terre, ou alors vous vivez pas sur terre. Parce que tant qu'on est sur cette terre, on aura des soucis. Même quand on cherche à les fuir, c'est là qu'on s'en crée encore davantage d'ailleurs. Donc les soucis font partie de la vie. Mais la parole de Dieu nous parle d'une paix qui surpasse toute intelligence. Il nous parle d'une paix de Dieu. Comment l'avoir cette paix ? Fuir la corruption, évidemment. Mais la parole de Dieu en elle-même, quand vous la lisez, quand vous la méditez, quand vous la serrez sur votre cœur, quand vous l'aimez, quand vous aimez la parole de Dieu, il y a une paix qui remplit votre cœur. Faites-en l'expérience. Quand vous êtes en combat, en situation difficile, périlleuse, lisez la Bible. Et vous allez voir qu'il y a quelque chose de paisible qui va rentrer en vous. La parole de Dieu communique la paix, un esprit tranquille, un esprit serein. Elle est une force. Le psaume 119, verset 43, nous dit que la parole de Dieu est une force contre la détresse et contre l'angoisse. Arrêtez les médicaments, mais lisez la Bible. Arrêtez d'aller chez le psychologue, mais prenez le temps de lire la Bible. Il y a tant d'angoisse, tant de cris, tant de détresse. Et la Bible nous dit que quand on prend le temps de méditer la parole, elle a cette puissance, cette force contre les angoisses et contre la détresse. C'est un des effets de la parole de Dieu. Le Proverbe 3, encore, verset 24, nous dit que la parole de Dieu procure pour celui qui la reçoit avec foi et qui aime la parole un sommeil doux. Bon, il n'est pas question forcément de lire la Bible seulement pour dormir. Hein. Mais combien Dieu sait qu'on a besoin de sommeil. On a déjà eu l'occasion ici aussi de méditer sur cette promesse extraordinaire. Et plusieurs ont fait l'expérience qu'effectivement, quand on professe cette vérité-là, oh, c'est incroyable, ça fait des mois que je ne dormais pas, j'ai envie comme un bébé. Alléluia! Mais il faut demeurer dans la foi, il faut méditer la parole, parce que ce que Dieu dit, il l'accomplit. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Et parmi les promesses qu'il y a, il y a la paix. Mais il y a également ce sommeil. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Voilà, encore un des effets de la parole de Dieu. Tant de gens courent à gauche, à droite, un médicament pour se coucher, un médicament pour se lever. Seigneur, fais-nous grâce. Trouvons-nous la foi qui nous permet de vivre cette parole, qui nous donne cette promesse. La parole de Dieu communique, et je reprends les termes qui sont dans la Bible, une grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. C'est aussi dans le Proverbe 3. Le psaume 119, verset 66 et ailleurs encore, va nous dire que la parole de Dieu nous donne du bon sens et de l'intelligence. Ce n'est pas de la prétention. Mais combien de personnes, et j'en fais partie, je ne crois pas que je sois plus intelligent, j'ai comprendre le sens de ces propos-là. Mais quand on se tourne vers Dieu, et que Dieu touche notre cœur, qu'il ôte la noirceur de notre péché et que notre manière de réfléchir commence à être éclairée par la compréhension que la parole de Dieu nous donne du monde qui nous entoure, de nous-mêmes, des gens qui nous influencent, du péché qui nous saoule, qui nous souillait. Alors effectivement, soudainement, on voit les choses plus clairement, plus nettement. C'est comme si on retirait, vous savez, des lunettes déformantes. Ça vous est déjà arrivé de mettre ça, ou alors de vous mettre devant un miroir qui vous déforme. Mais c'est comme ça que le monde, le péché nous influence avec ses raisonnements, avec ses faux repères. On est là dans ce monde à des lunettes déformantes et puis on se regarde dans un miroir déformant et on a l'impression que tout est bizarre. Mais le jour où on commence à fixer notre regard sur la parole de Dieu et qu'on commence à fixer notre mode de vie selon la parole de Dieu, alors c'est vrai, il y a de l'intelligence. Il y a du bon sens, il y a de la grâce. On voit les choses clairement. Même, on évite de faire des bêtises et de se retrouver dans des situations périlleuses à cause de nos mauvaises réactions. Parce qu'il y a des fois, on est bête parce qu'on se crée par nos réactions des situations dangereuses. Mais la parole de Dieu nous donne, elle est source de connaissance, elle est source de science, elle est source de vérité. Vous pourrez lire
Il y a un personnage qui s'appelle Daniel, il est parti avec, c'était un juif, un homme qui était vraiment attaché à Dieu, c'était un homme de prière, et puis il avait aussi ses compagnons, et puis cet homme, il avait fait quelques études, un des responsables, l'empereur de l'époque, pour prendre un terme plus générique, les invite à travailler avec dans sa cour. Et cet empereur a trouvé qu'il y avait dans ces juifs pieux 10 fois plus d'intelligence que dans tous les autres sages qu'il y avait dans son royaume. Oui, Dieu nous donne de l'intelligence. Dieu nous aide même à comprendre les choses. Et j'ai entendu plus d'une fois des témoignages comme ça, encore récemment. Tiens, c'était chez mamie. Ce jeune homme qui avait arrêté les études, il a repris les études après avoir quitté l'école pendant longtemps. Et lui, il était en difficulté. Et maintenant, il se retrouve dans les premiers de la classe. Amen. Mais entre deux, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est converti. Il a donné son cœur au Seigneur. Et on le voit, il l'aime de tout son cœur. Et le Seigneur lui donne de l'intelligence. Amen. Il y a véritablement des capacités qui nous viennent du Seigneur, qui nous donne du bon sens, qui nous donne de l'intelligence, qui nous donne du discernement, qui nous permet de comprendre ce qui est vrai de ce qui est faux, qui nous donne de la science, qui nous donne de saisir les choses, et éclairé par sa parole. La parole de Dieu nous communique la sécurité. Dans un monde d'actualité, où à la moindre menace, on fait sortir les boucliers, les mitraillettes, la Bible nous dit « ne redoute ». Ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. C'est dans le psaume 3 encore, verset 25. La parole de Dieu nous communique la sécurité. Il n'y a point à être troublé, il n'y a pas de peur à avoir. Nous ne sommes pas là à tressaillir au moindre bruit. J'ai connu une personne qui était tellement angoissée, stressée, que dès que son téléphone sonnait... Son cœur battait fort. Dès qu'elle entendait un bruit, elle était saisie. Elle s'attendait toujours à ce qu'il y ait quelque chose de mauvais qui se passe. Et dès qu'il y avait quelque chose de pas trop mal qui se passait, elle se dit « Ah oui, mais attends, ça va pas durer, parce qu'avec toutes les tuiles qui m'arrivent. » Mais quand on lit, quand on médite la parole, qu'on se laisse influencer par la parole, notre cœur est serein. Il ne craint rien. Il n'est pas dans le doute, il n'est pas dans la terreur, il n'est pas dans l'angoisse. Il y a cette sécurité. On ne redoute aucune terreur, ni aucune attaque. Parce que la parole de Dieu nous parle de confiance, elle nous parle de sécurité. J'aime ce verset du psaume, du proverbe 3, verset 22, où la Bible nous dit qu'elle procure la vie à l'âme. La parole de Dieu communique la vie à notre âme. Il faut comprendre que derrière ce mot « vie », mais c'est la joie, c'est l'enthousiasme, c'est le goût à la vie, c'est l'espérance. Vous pourrez retrouver d'ailleurs ces mots-là dans le psaume 119, verset 49, où la parole de Dieu communique l'espérance. J'ai pour vous, dit Jésus, dit Dieu au travers de Jérémie, j'ai pour vous un avenir et de l'espérance. Des projets de paix et non de malheur. Mais au contraire, Dieu est celui qui veut communiquer la vie à notre âme. Il veut communiquer la joie, il veut communiquer la liberté, il veut communiquer l'espérance. Et l'espérance n'est pas dans un programme politique. L'espérance, elle est dans la parole de Dieu. Amen. Tant d'hommes, tant de femmes sont là avec des cœurs serrés, étouffés. Ils n'ont pas de vie, ils n'ont pas d'âme. Ils survivent, ils n'existent pas, ils ne vivent pas, ils existent seulement. Ils sont un numéro de sécurité sociale. Ils ont une existence, mais ils n'ont pas de vie. Ils n'ont pas de dynamisme. Ils sont comme des morts vivants en réalité. Ils savent que c'est pas bien de se suicider, alors ils ne le font pas. Mais à l'intérieur d'eux-mêmes... C'est vide, c'est mort, c'est froid, c'est sec. Alors ils essayent de pallier ça avec quelques excitants, quelques amusements, quelques divertissements. Mais une fois que toutes les paillettes sont éteintes et que tout dégringole, que la musique est coupée, alors il y a le silence de la mort qui revient dans leur âme. Et quelle tristesse!
Certains vont chercher à fuir ce genre, cette mort qui est au-dedans d'eux, au lieu de chercher la vie au Seigneur. La vie, c'est Dieu qui nous la donne. La vie, c'est Dieu qui nous la donne. Est-ce que vous pensez qu'un poisson hors de l'eau peut vivre ? Non. Pour le poisson, la vie, c'est l'eau. On est d'accord ? On le comprend ? Pour le poisson, la vie, c'est l'eau. Pour l'être humain, la vie est en Dieu. Il ne peut pas y avoir de vie épanouie sans Dieu. Nous avons été créés comme ça. Esprit, âme et corps. Mais premièrement, esprit, nous sommes premièrement et foncièrement des êtres spirituels. Notre corps va finir par mourir. Notre âme est collée à l'esprit. Et si nous nions cette réalité, bah oui, un poisson ça va dans l'eau, bah oui, c'est normal, il est fait pour ça. Mais nous, nous sommes faits pour le monde spirituel. Tout notre être est spirituel. Depuis le commencement du ventre de notre mère jusqu'à l'éternité. Nous sommes spirituels. C'est Dieu qui a soufflé cet esprit en nous. Nous sommes premièrement des êtres spirituels, secondement des êtres de chair. La chair va durer un temps et puis c'est fini. 10 ans, 20 ans, 50 ans, 80 ans, 120 ans pour les plus vieux, puis c'est tout, ça s'arrête. Mais nous sommes foncièrement et premièrement des êtres spirituels. Et si nous ne répondons pas à ce besoin de notre âme, alors l'âme est morte. Et c'est souvent ainsi que la parole de Dieu nous parle de nous. Celui qui est en Christ est un vivant. Celui qui demeure loin de Dieu est mort. Quoi qu'il vive encore, ben oui. Parce qu'on peut vivre encore, payer les impôts, conduire sa voiture, mais être mort intérieurement. Parce que l'âme n'a pas de vie. Mais seule la parole de Dieu communique la vie. Elle communique la vie intérieure, cette paix, cette joie, qui n'est que le reflet de notre relation avec l'éternité. C'est dans Éphésiens, chapitre 1, verset 13, où Paul dit « Vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez reçu le Saint-Esprit. » Amen. L'évangile de votre salut. Il y a une vie ici-bas que le Seigneur peut combler, mais il y a une vie éternelle. L'évangile du salut. Et cela, le Seigneur nous appelle tous à le vivre. La parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle communique ? Elle communique la satisfaction. Personnellement, avant que je connaisse le Seigneur, j'étais un râleur, un insatisfait continuel. J'étais jamais satisfait, jamais. Il y avait toujours un truc qui faisait « ça va pas ». Mais quand le Seigneur, et quand par sa parole, le Seigneur touche et rentre dans notre cœur, alors c'est tout l'inverse. Il nous amène la satisfaction, le contentement. C'est l'apôtre Paul qui dira, la piété est une grande source de bien, la piété avec le contentement est une grande source de bien. Il y a cette satisfaction, cette quiétude, ce rassasiement. À tel point qu'au psaume 119, verset 14, le psalmiste a dit « Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. » Oh, qui serait pas satisfait ce soir d'avoir tous les trésors ? Là, vous n'aurez plus de soucis à vous dire « Ah oui, mais combien va me coûter ce cadeau ?» Et puis j'ai quel cadeau ? Si vous aviez tous les trésors du monde, vous pourriez faire tous les cadeaux du monde. Plus de soucis. Mais la vraie satisfaction, elle est là, à réaliser que dans la parole, nous avons tous les trésors. Bien plus riches que si une porte-monnaie était comblée et remplie. Encore ce psaume où le psalmiste va dire « Tu me combles bien plus que tout cela qui déborde le mou, le gras, l'abondance matérielle. Moi, tu me combles bien plus au-dessus de tout ça. » La parole de Dieu communique la satisfaction. D'ailleurs, demandons-nous, quand on commence à se plaindre, est-ce que ce n'est pas un manque d'attachement à la parole ? Est-ce que ce n'est pas un manque de satisfaction, de réjouissance de tous les trésors que Dieu nous donne ? En dehors de sa parole, nous sommes forcément insatisfaits, mais dans sa parole, nous trouvons un contentement bien meilleur que tout ce que nous pourrions vivre sur cette terre. Je n'ai pas fini. Au proverbe 3 encore, verset 8, j'ai fait exprès de rester beaucoup sur ce proverbe pour que vous puissiez le lire à la maison. Mais il nous est dit que la parole de Dieu communique la santé pour notre corps et pour nos os. La santé pour notre corps et pour nos os, à tel point que la parole prolonge les jours et les années de notre vie. Oui, il y a une bénédiction pour notre santé. Il y a des promesses de guérison au travers de la parole. Au travers de la parole, il y a une puissance d'influence pour notre santé. Et là, on pourrait citer plein d'exemples encore d'hommes et de femmes qui ont entendu la parole de Dieu et qui ont été guéris, soutenus, restaurés. Un jour, Pierre et Jean vont à la prière, à l'église, enfin, à un rassemblement de prière. Et puis, ils trouvent un homme là, infirme. Il dit, on n'a rien à te donner. On n'a ni argent ni or. Mais ce que l'on a, on te le donne. Prends la main. Et cet homme, pour s'en recevoir quelque chose de leur part, leur donna la main. Pierre le releva. Et cet homme se mit à marcher. Amen. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Ils avaient quoi? Ils avaient la parole de Dieu avec la puissance de l'Esprit, c'est tout. Ils avaient la foi communiquée. La parole de Dieu nous donne de l'honneur. Verset 22 du même proverbe, chapitre 3. De l'honneur. Ça veut dire quoi de l'honneur? Pas de la fierté, non. Mais la parole de Dieu communique dans notre être intérieur de l'assurance. Pas de l'arrogance, mais de la confiance en soi. Pas de l'orgueil, mais de cette droiture, cette stabilité, cette paix sereine, tranquille, qui fait que on n'est plus comme avant, complètement déstabilisé par les candidats, par le jugement des autres. Mais il y a cet honneur, il y a cette droiture, il y a cette force intérieure. Il y a ce point intérieur qui fait qu'on ne se croit pas au-dessus des autres. Mais on est tellement enraciné et confiant dans notre Dieu que quoi que nous disent les hommes, comme nos yeux sont fixés sur sa parole et sur sa présence, il y a cet honneur, cette tranquillité, cette confiance en soi. Psaume 119, verset 50, et d'autres passages évidemment, mais en référence, vous pouvez lire celle-ci. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. La parole de Dieu communique la consolation. On peut avoir bien des sujets d'avoir le cœur brisé, mais la parole de Dieu vient pour nous consoler. Elle est consolatrice. On peut être brisé, cassé. On peut être meurtri pour bien des raisons. Quelle que soit la raison, la parole de Dieu nous dit qu'elle est consolatrice. Dans ma misère, tu as été ma consolation. Amen. Dans ma souffrance, tu as été ma consolation. Dans ma tristesse, dans mes larmes, tu as été ma consolation. Je me souviens de cette femme qui m'avait appelé en pleine nuit, pleine de détresse, dans les larmes, le cœur brisé, cassé. Je ne pouvais pas lui rendre visite comme ça. Et je lui ai fait confiance à Dieu, pris le lit de la Bible. Et le lendemain, elle m'a rappelé, elle me dit, oh, c'est extraordinaire. J'étais brisé, cassé, je pleurais. J'ai commencé à lire la Bible. Et une paix surnaturelle a rempli mon cœur. J'ai été consolé. Amen. Des parents en deuil ont trouvé dans la parole de Dieu les forces nécessaires pour être consolés. Des vies brisées ont été restaurées, consolées par la parole de Dieu. Le psaume 119 aussi, verset 32, il nous est dit que la parole élargit notre cœur. Ça élargit notre cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est tout l'inverse. Et l'image, on la comprend bien souvent dans ce sens-là. Vous savez, quand on dit un cœur serré, j'ai le cœur serré. Quand on est là en souffrance, on est dans la crispation, on est dans l'étouffement, on n'arrive pas.
Il y a quelque chose qui nous prend de l'intérieur et on étouffe.
Mais la parole de Dieu fait tout l'inverse. Elle élargit notre cœur. Elle nous donne l'envie de vivre, la respiration. Elle nous donne de la couleur là où on ne voyait que de la grisaille. Elle élargit notre cœur, elle nous donne envie d'aimer les autres. Elle nous donne envie de vivre la parole de Dieu. Elle a cette puissance d'élargir notre être intérieur, notre âme. Elle nous rend en vie. Elle retire toute tristesse. Et elle nous donne cet esprit de liberté, d'enthousiasme. La parole de Dieu.
Je pense qu'ils sont venus rigoler un petit coup.
La parole de Dieu nous dit qu'elle est un bouclier, qu'elle est une protection.
Ouais, tu veux bien les fermer, s'il te plaît, c'est extra cool. Qu'on ait froid encore 10 minutes. Merci beaucoup, David.
Le psaume 119, verset 134, il est écrit « Délivre-moi de l'oppresseur, délivre-moi des hommes, décharge-moi de l'opprobre et du mépris, car j'observe tes préceptes. » Et au proverbe 4, verset 6, il est écrit « N'abandonne pas la parole et elle te gardera. Aime la parole et elle te protégera. » Oui, la Bible est une protection pour ceux qui y croient. Elle est une puissance de protection pour ceux qui y croient. Elle est une protection pour nos vies, pour nos âmes. Et je peux même vous dire qu'il y a tant de situations où Dieu nous protège, on n'en sait rien du tout. Mais Dieu nous protège. Elle nous protège, nous, elle protège nos bien-aimés. Nombre de fois avec Serena, on bénit le Seigneur parce qu'on voit Akewa qui se vautre à gauche, à droite, et à chaque fois on dit, mais c'est pas possible, elle est protégée. Et tant de circonstances où Dieu nous protège. Il nous protège physiquement. Il nous protège moralement. Il nous protège spirituellement parce que nous sommes dans un combat d'ordre spirituel. Parce que les mauvais esprits cherchent à apporter l'oppression. Je me souviens de cette femme qui venait d'un pays où il y avait un beau réveil spirituel et elle se retrouvait en France. Alors elle est venue plein de feu, plein de flammes. Et puis en France, il y a une chape spirituelle, il y a une lourdeur spirituelle. Il y a une oppression spirituelle. Et cette femme n'avait jamais vécu ça. Pour elle, c'était toujours le feu, l'hardiesse, le dynamisme spirituel qu'on connaît dans les pays de réveil. Et là, en France, elle ne comprenait pas cette lourdeur. Et elle discute, elle dit, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai jamais eu ça. J'ai l'impression que, je ne sais pas, je ne suis pas en forme, je n'ai pas d'envie. Bref, elle mettait des petits mots que nous, on appellerait, j'ai un coup de déprime, quoi. Et on a commencé à lui expliquer que tu sais, c'est spirituel ce que tu es en train de vivre. C'est pas qu'il y a un manque de quelque chose, mais il y a une pression spirituelle. Il faut vraiment que tu réalises qu'il y a une position spirituelle à avoir afin que cette oppression sur ton âme ne t'étouffe pas. Et là, elle a réagi, elle a retrouvé cette force parce qu'elle a confessé que la parole de Dieu était là pour la protéger. Amen. Et la parole de Dieu, quand elle est reçue avec foi, nous protège. Elle nous protège nous, elle protège nos bien-aimés, elle protège les membres de nos familles. La parole de Dieu, dans le même acabit, est une force contre le péché. Au psaume 119, verset 11, cet homme dit, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Il y a des situations où on serait peut-être tenté de nous laisser aller à des choses que l'on sait être contraires à la volonté de Dieu, à la mentalité de Dieu. Peut-être même à tomber dans des péchés grossiers, honteux, que nous rougirions si d'autres personnes l'apprenaient. Mais le fait de serrer la parole sur notre cœur, comme on l'a chanté, c'est une force contre le péché. Si tu veux la force contre le péché, serre la parole sur ton cœur. Cite des versets de la Bible. Proclame la parole de Dieu. Et cette oppression, cette tentation, cette force qui te pousse à mal agir, hop, ça va perdre son intensité. Et il finira par partir. Jésus lui-même s'est servi de la parole de Dieu pour combattre le péché. Lorsqu'il était là, dans le désert, en Luc chapitre 9, chapitre 4, et que Satan le tentait, L'arme de Jésus a été de brandir des versets de la parole de Dieu. Il est écrit. Et au bout d'un moment, le diable lui-même est parti.
La parole de Dieu,
elle purifie l'âme. C'est Jean chapitre 15, verset 3. Jésus dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Le seul fait d'entendre la parole de Dieu, comme ce soir, il y a une influence, une action spirituelle qui nettoie vos âmes, qui purifie vos âmes. Et je suis sûr que vous l'avez déjà expérimenté, ça, de venir à l'église, peut-être pas forcément dans de bonnes dispositions, peut-être pas très enthousiaste même, peut-être même que vous êtes forcé à venir, peut-être même que pendant la prédication, ça vous passait au-dessus de vos têtes. Et n'empêche que quand vous êtes rentré ou le lendemain, vous avez senti qu'il y avait comme un poids qui s'était retiré de votre âme. Il y avait quelque chose qui s'était passé. Vous vous sentiez comme épuré, purifié. Oui, la parole de Dieu a cette puissance de purifier nos âmes. Quand on lit la parole à chez nous, même si on ne la comprend pas, elle nettoie notre âme. Elle est comme cette eau qui passe sur nous et qui nous purifie. Je terminerai par ce dernier point. Et je suis sûr qu'il pourrait encore en rajouter. Mais c'est en 1 Pierre chapitre 1 verset 23 où Pierre va dire « Vous avez été régénérés. » Non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Vous avez été régénérés par la parole de Dieu. Régénérer, c'est transformer. Régénérer, c'est qu'il y a quelque chose, un renouvellement dans notre être intérieur. La Bible nous parle de la nouvelle naissance. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Et cette action de transformation, non pas là de bricolage, non pas d'amélioration, mais de transformation, vient par l'action de la parole de Dieu dans vos vies. Seigneur, j'ai pas seulement besoin que tu m'améliores, j'ai besoin que tu me changes. J'ai pas seulement besoin que tu bouges quelques failles dans ma vie, mais j'ai besoin que tu changes toute ma vie, que tu me régénères, que tu me transformes. De la tête aux pieds, de l'intérieur, de l'extérieur, j'ai besoin d'être transformé, j'ai besoin de voir les choses autrement, j'ai besoin de ressentir les choses autrement, j'ai besoin d'avoir de nouveaux sentiments, j'ai besoin d'avoir un nouveau cœur, j'ai besoin d'avoir une nouvelle bouche, j'ai besoin d'avoir de nouveaux entrailles, j'ai besoin d'avoir une autre motivation, j'ai besoin que ma vie soit différente, transformée, comme une chenille se transforme en papillon. On n'a pas besoin de se transformer de chenille en ver de terre, ça n'a pas de sens. On n'a pas besoin de rester là à ras de terre. Ce que l'homme a besoin, c'est de passer de cet état-là de grignotage à cette élévation spirituelle. Si Dieu nous a laissé les chenilles et les papillons, c'est vraiment pour nous expliquer ça. C'est que Dieu est capable de transformer nos vies. Pour que d'un état que nous sommes, misérables, petits, où les oiseaux du ciel peuvent nous becquer, à devenir un papillon, cet être libre, plein de lumière, beau à voir, qui ne fait plus peur, mais qui au contraire communique la paix, la joie, qui est source d'un bon parfum du printemps. Seigneur, c'est par ta parole que tu fais toutes ces choses-là. Amen. Et je citerai cette dernière référence, non pas pour la commenter, mais pour que nous sachions que toutes les fois que nous lisons la parole, toutes ces choses, nous pouvons la vivre. Parce que Jésus nous fait cette promesse. Dans Jérémie chapitre 1, verset 12, l'Éternel me dit, « Je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Amen. Tout ce que nous venons de lire n'est pas parole d'homme, mais elle est la parole de Dieu. Et il veut, et il veille à ce que tout ce que lui-même s'est engagé à dire, à mentionner, il l'accomplisse. Amen.